plusieurs, comment je peux dire ça, là, paroles là, des chants qu'on a chantés tantôt. Et c'est drôle, hein? Et ça vient un peu des paroles, mais plusieurs chants, ça vient de la parole de Dieu, là, vraiment, on chante des psaumes, là. Puis tout ce qu'on on a tantôt parlé de la puissance de Dieu. Et c'est drôle parce que ça ressemble un peu à ce que Job va dire dans ses échanges avec Dieu, dans ces moments difficiles qu'il s'adresse à Dieu. Et nous avons pris même ces paroles pour les chanter maintenant, parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Et donc, c'est bon de voir ça, comment Dieu peut toucher les cœurs, et un peu maintenant, à cause de ce que nous avons pouvoir chanter les paroles de ces livres qui a été écrit depuis des milliers d'années. Et c'est la parole de Dieu, c'est sa parole, c'est sa vérité, la vérité. Donc, nous continuons dans notre étude. Aujourd'hui, nous avons trois. La semaine passée, nous avons eu quatre chapitres à lire. Hein. Nous allons lire trois chapitres aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dimanche prochain, nous allons lire deux. Non, ça veut dire... D'ailleurs, on continue encore Job, je crois, la semaine prochaine, c'est ça? Donc, après, on va continuer avec les psaumes, là. Mais après, en septembre, on va continuer avec Job. Mais aujourd'hui, nous allons lire Job 8 à 10. On va étudier Job 8 à 10. Mais si je fais rapidement un résumé, jusqu'aujourd'hui, Job était un homme... Qu'est-ce qu'il dit là? Dieu même dit, est un homme intègre et droit qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Dieu lui-même témoigne, et on le voit dans les premiers chapitres. Il était l'homme le plus juste sur la terre, on dit. Pourtant, il a été soumis à une épreuve extrême lorsque Dieu a permis à qui? Au malin ou à Satan, l'ennemi, de le toucher pour tester sa foi. Et donc, en un instant, qu'est-ce que Job a perdu? Perdu ses troupeaux, a perdu ses serviteurs, a perdu ses 10 enfants. Et même sa propre santé, on l'a vu après. Puis il est frappé d'un ulcère malin de la tête aux pieds, seul, assis sur la cendre, privé du soutien même de sa femme. Et Job reste, malgré tout ça, fidèle. Et il ne se rebelle pas contre Dieu, mais sa souffrance était immense. Et arrivé pour le consoler, on a vu la semaine passée aussi, et ses trois amis sont restés muets devant sa douleur pendant 7 jours. Et Job a comme brisé la glace 7 jours après, puis il a fait une complainte déchirante, et même maudissant le jour de sa naissance et criant à Dieu son incompréhension face à cette épreuve. Et par une seule question, il dit, pourquoi? C'est ça, pourquoi? La semaine passée, nous avons vu la réponse du premier des amis, après que Job a parlé dans le chapitre 7, là, à Dieu, chapitre 3, Eliphaz répond. Et Eliphaz, un homme venu, il dit, du Téman, une ville où les gens étaient connus par sa sagesse. Donc Eliphaz a tenté d'apporter un encouragement, mais son explication était trop simpliste et même fausse. Donc, en s'appuyant sur son expérience humaine, sur l'idée qu'on récolte toujours ce qu'on sème, et sur un rêve mystérieux même qui en parlait, il a affirmé que si Job souffrait autant, c'est parce que il avait forcément commis un péché caché, qu'on peut dire, un péché mignon, si on peut dire. Il a alors exigé que Job se répande pour que Dieu le guérisse. Donc, c'est cette logique froide, sans amour, sans compassion, et il a profondément blessé Job. Et en réponse, il a reproché à ses amis de leur manque total de compassion, et le comparant à des sources d'eau asséchées dans le désert. Quelqu'un a dit, avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Hein? Donc, c'est... Il venait pour supposément les consoler. Et sachez que non seulement Job il souffre à cause de tout ce qui est arrivé, mais maintenant il souffre aussi à cause de ses amis. Ils le font souffrir davantage au lieu de le consoler. Et si je peux dire, après le décourageant encouragement d'Éliphaz, là, Job termine par sa réponse en criant à Dieu, « Pourquoi m'éprouves-tu » à la fin du chapitre 7. « Pourquoi m'éprouves-tu ? Jusqu'à quand cela va durer ?» Et c'est la question que nous nous posons souvent. Hein? Pourquoi ? Et jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Parfois, on trouve ce que Dieu permet dans nos vies, c'est injuste. Non ? Vous l'avez éprouvé des fois ? Moi, je l'ai éprouvé il y a 10 ans. Et il était... Est-ce que c'est juste ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Pourquoi mes enfants? Pourquoi maintenant? J'ai rien pour mériter cela. Pourtant, j'étudie la Bible, je suis fidèle, je vais à l'église, et je sers Dieu. Vraiment de bon cœur. Hein? Je ne suis pas dit quelqu'un qui vient religieusement. De bon cœur. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu permets cela? Pourquoi? Et jusqu'à quand ça va durer? C'est vraiment la question. Est-ce que vous posez des fois cette question? Est-ce que vous souffrez aujourd'hui, frères et sœurs? Je ne veux pas dire lever la main, mais nous avons des souffrances, hein, chacun de nous. Et tantôt, l'autre jour, j'ai dit, mais si vous ne souffrez pas, et vous êtes chrétien, vous aimez Dieu, ça va vous arriver. Donc, soyez prêts quand vous allez passer par des temps difficiles. Mais... Donc, dans ces temps-là, quand on est vraiment éprouvé, comment être, qu'est-ce qu'on a besoin quand on est découragé, éprouvé, on souffre, qu'est-ce qu'on a besoin? D'être consolé, d'être rassuré. On ne comprend pas ce que Dieu fait, on a besoin d'être rassuré. Et c'est exactement ce que vivait Job. Il avait un besoin immense d'être rassuré. C'est alors que son ami, Bildad, le deuxième, il prend la parole, mais au lieu de le consoler, le discours de Bildad va être encore plus dur pour lui. Pauvre Job. Hein? Pourtant, cet échange, qui est dur, va nous conduire vers une grande vérité. Dans l'épreuve, Dieu seul nous rassure. Dans l'épreuve, Dieu seul nous rassure. À travers les chapitres que nous allons étudier ce matin, nous allons découvrir au moins 3 façons merveilleuses dont Dieu s'y prend pour apaiser nos cœurs. On l'a chanté, hein? Pour apaiser nos cœurs et fortifier notre foi. Premièrement, nous verrons que Dieu, dans le chapitre 8, nous verrons que Dieu nous rassure par sa parole. Deuxièmement, dans le chapitre 9, Dieu nous rassure par Jésus, notre médiateur. Et troisièmement, enfin, Dieu nous rassure par notre espérance. Toutes ces choses-là, on l'a chanté. On peut en parler d'autres choses, mais c'est ce qui ressort, de ces 3 chapitres. Donc, entrons ensemble dans l'étude de chapitre 8 à 10. Je vais essayer de lire rapidement, okay? Parce que c'est quand même 3 chapitres de 20 quelques versets chaque. Donc, on va commencer par le discours de Bildad, okay? Le chapitre 8. C'est bon, vous avez tous Job 8, juste le chapitre 8. Bildad de Shua prit la parole et dit, « Jusqu'à quand tiendras-tu ces propos, et les discours de ta bouche seront-ils un vent impétueux? Dieu fausserait-il le droit? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leurs crimes. Mais toi, si tu recherches Dieu, si tu implores la grâce de Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, certainement alors il veillera sur toi et rétablira ta demeure qui abritera ta justice. Ta première condition semblera peu de choses. Celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Interroge donc ceux de la génération précédente. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Eux ne s'intéresseront-ils pas? Ils te le diront, ils tireront de leur cœur ces propos. Le jonc pousse-t-il sans un mari? Le papyrus peut-il croître sans eau? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Sa confiance est dans une toile d'araignée. Et il s'appuie sur sa maison. Il ne tient pas. Il s'y cramponne, mais il ne subsiste pas. Riche de sève et plein de soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Ses racines s'entrelacent dans un tas de cailloux. Il contemple une maison de pierre, l'arrache-t-on de son domicile. Celui-ci le renie. Je n'étais pas vu. Tels sont les délices de sa destinée. Puis, de cette même poussière, d'autres germeront. Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Il n'affermit pas la main de ceux qui font le mal. Bientôt, il remplira ta bouche des cris de joie et tes lèvres d'acclamation. Ceux qui te haïssent seront revêtus de honte et l'attente des méchants disparaîtra. C'est un beau, bel encouragement hein, pour Job. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce Bildad, là, on peut dire, on peut même dire qu'il est cruel. Hein? Il est direct, tranchant, même violent, si on peut dire. Il commence par dire, « Jusqu'à quand, Job, vas-tu parler ainsi? Et tes paroles sont comme un vent impétueux. Ça me dérange, tes paroles, là, parce que Bildad ne supporte pas d'entendre Job de contester la justice de Dieu. Pour lui, les plaintes de Job ne sont pas seulement de la tristesse, mais une révolte inadmissible contre le Tout-Puissant. C'est ça que Bildad considère en ce qui concerne Job. Pour lui, les choses sont simples. Dieu est juste, donc ce qui t'y arrive, c'est fortement juste. C'est parce que tu as péché. Et donc, pour appuyer sa logique, il va proposer une explication, une solution, mais en allant encore plus loin que son ami Eliphaz, le premier. Là. Et si on compare tous les deux, là, Eliphaz appuie surtout sur une expérience personnelle. Okay? Il parle d'un rêve mystérieux pour appuyer ce qu'il dit à Job. Bildad, lui, n'a aucune diplomatie. Et son argument est indiscutable. Il dit, c'est la tradition et la théologie des anciens. Il dit à Job, interroge, il dit la génération précédente. Regarde l'expérience de nos pères. Tout le monde sait que ça marche comme ça. Tu es bon, Dieu te bénit. Tu es mauvais, de fait, tu souffres comme tu le fais maintenant. Mais il semble aussi s'appuyer sur des proverbes de la sagesse ancienne pour soutenir son raisonnement. Il parle du verset 11 à 19, il parle... Et selon lui, ce qui se détourne Dieu ressemble à des plantes fragiles, sans profondeur ni solidité, qui finissent par se dessécher et disparaître même. Et il mentionne que l'assurance de l'impie est fragile, comme vous avez vu l'étoile d'araignée, là, c'est fragile, hein? Mais pas pour les araignées, mais nous, on peut les arracher facilement. Donc c'est là qu'il considère un peu la foi de Job, il était superficiel, selon Bildad. Donc, il applique alors cette idée à Job. Il dit, Job, si tu as été frappé et comme arraché des terres, c'est sûrement parce que tu t'es éloigné de Dieu. Donc, reviens à lui et il te rétablira. Et c'est drôle, hein, dans le verset 20-22, c'est drôle parce que c'est ce qui est arrivé à Job. Hein. À la fin du chapitre 8, là, il dit, il va te rétablir et tout, il est méchant. Oh. Et c'est eux qui sont placés comme les méchants à la fin. Mais je vous dis, vous avez déjà lu Job. On va le découvrir à la fin du livre. Donc, la logique de Bildad devient cruelle. Il offre à Job une explication terrible. Regardez ce qu'il dit. Tes 10 enfants sont morts parce qu'ils ont péché, là. Okay? Et que Dieu les a punis de leurs crimes. Et toi, si, Job, si tu t'es ruiné et malade, c'est parce que tu as forcément fait le mal. Il essaie d'encourager son ami en disant que ses enfants sont morts à cause de leurs crimes. Est-ce que la parole, est-ce qu'on a vu ça? Non. Est-ce qu'on voit le contraire? Non plus. On ne le sait pas, en fait. Mais il y a quand même des indices. Hein? Job offre des sacrifices pour leurs enfants. Voir si jamais, d'après moi, ils croyaient aussi. Peut-être pas comme Job, leur vie était droite comme Job, mais d'après moi, ils croyaient aussi, mais dans sa volonté, dans sa souveraineté, Dieu a permis cela et ses enfants sont tous morts, les 10. Mais Bildad, il dit non, ils ont péché. Là, ils sont morts, donc toi, répands-toi. C'est toi qui as fait le mal. Quelle est alors la solution de Bildad qui propose. C'est une solution purement humaine et mécanique. Si tu recherches Dieu, il dit, si tu imposes et si tu implores sa grâce, et si tu es vraiment droit, alors il va veiller sur toi et t'atteindra encore, tu deviendras plus riche qu'avant même. Il remplira ta bouche des cris des joies, si tu fais ça. Mais, comme nous l'avons vu dans le prologue, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que la situation est plus complexe que ça, là. Et oui, Dieu est souverain et juste, mais nous ne savons pas, et en tout cas, Job, ni Bildad, ni ses amis savent que Satan est impliqué là-dedans et qu'il se passe des choses cachées pour eux. Donc, une partie du plan de Dieu échappe à Bildad et à Job aussi. C'est pourquoi la position de Bildad est incomplète. Il s'appuie sur des vérités réelles. OK? De façon générale, c'est vrai, comme on l'a vu la semaine passée, mais comme il y manque des informations importantes, il tire des mauvaises conclusions et applique ces vérités d'une manière qui blesse profondément Job. Il ne sait pas que la souffrance de Job n'a rien à voir avec son péché, puisque Dieu lui-même a déclaré « Job était intègre et droit ». Donc, en gros, la solution de Bildad est « Fais ce qu'il faut pour corriger ta vie et Dieu sera même obligé de te bénir en retour ». Il traite Dieu, comme on l'a vu la semaine passée, comme une machine distributrice. Là. Fais ça et je vais te donner ça, les bonnes choses. Mais on sait que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Job manquait des informations, c'est vrai. Mais des fois, on se demande, quand on est là, on souffre, on est dans l'épreuve, mais pourquoi, Seigneur? J'aimerais savoir un peu plus, pourquoi? Et ça m'arrive, celle-là. Mais on n'a pas des fois des réponses. Et Job n'aura pas des réponses. Par contre, Dieu va se révéler à Job après, à la fin. Donc, pour être rassuré dans l'épreuve, nous ne pouvons pas nous fier à la sagesse des hommes et aux traditions. Il nous faut une révélation spéciale, une parole qui vient directement du ciel. Et je ne suis pas en train de dire que si vous souffrez, attendez une parole du ciel. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça, là. Mais ça se peut que Dieu se révèle aussi, des fois, par des rêves, tout ça, je comprends, là. Mais qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons maintenant la révélation écrite. OK? Et c'est là que Dieu nous parle. C'est par là que Dieu nous parle. Job n'avait pas ça, malheureusement. OK? Il ne pouvait pas lire. Mais nous avons ça, la révélation spéciale de Dieu. Regardez ce qu'il dit le psaume 119, qui pourrait répondre à Job. Il dit, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Wow! Colossiens, on va aller plus loin. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. » Ce qui avertit Paul. Job et ses amis ne possédaient pas ces écrits-là à leur époque. Mais nous, aujourd'hui, nous a fait cette grâce immense que nous avons la parole infaillible, la Bible. Nous avons ce que Job n'avait pas, une révélation spéciale, comme j'ai dit, écrite, parfaite. Quand le monde nous dit « Dieu t'a abandonné », la parole de Dieu nous rassure. Et elle nous révèle la vérité. Aujourd'hui, nous étions en train de dire « Nous sommes dans le véritable. » C'est lui le véritable, Jésus le véritable. C'est elle, la parole de Dieu, qui nous montre qui est Dieu et quel est son projet éternel. N'est-ce pas quand on est découragé, on peut s'approcher de Dieu pour qu'il nous parle? Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nous savons du reste que toutes choses concourent à bien à tous ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu est pour nous un refuge, un appui, au secours, qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, Job était patient quand même, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et si Job avait lu ça, il aurait passé... Ça aurait été pas pire, sa souffrance. Je ne dis pas qu'il n'allait pas souffrir, là, mais ça aurait été, il aurait été mieux réconforté, rassuré. En réalité, frères et sœurs, la logique humaine de Bildad nous montre une vérité essentielle pour que nous soyons pleinement rassurés dans l'épreuve, dans nos souffrances. Notre propre sagesse ne suffira jamais. Dans nos souffrances, Dieu seul nous rassure par sa parole. Lisons Job 9. On va lire la réponse de Job à Bildad. Job 9. C'est bon? Voilà la réponse de Job. En vérité, je reconnais qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait discuter avec lui, il ne pourrait lui donner une seule réponse sur mille. À lui la sagesse et la toute-puissance, c'est ce qu'on a chanté aujourd'hui, qui lui résistera impunément. Il déplace les montagnes sans qu'elle le sache. Il les bouleverse dans sa colère. Il fait trembler la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il parle au soleil et le soleil ne paraît pas. Il appose un sceau sur les étoiles. Seul il étend les cieux. Il marche sous les hauteurs de la mer. Il fait la grande tour sur Orion et les Pléiades et les constellations du sud. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici qu'il passe près de moi, je ne le vois pas. Qu'il disparaît, je ne le comprends pas. Qui ramènera ce qu'il arrache? Qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne retire pas sa colère devant lui, s'effondre les appuis de l'orgueilleux. Et moi, comment je lui répondrai? Quelle parole choisir devant lui? Quand je serai juste, il ne me répondra pas. J'implorerai la grâce de mon juge. J'appelais et qu'il me réponde. Et qu'il me réponde, je ne croirai pas qu'il ait prêté oreille à ma voix. Lui m'assaille par une tempête qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas reprendre mon souffle, car il me rassasie d'amertume. Si je recours à la force, c'est lui qui est puissant. Si c'est au droit, qui me fera comparaître? Si j'étais juste, ma bouche me condamnerait. Intègre, elle me donnerait tort. Suis-je intègre? Je ne le sais pas moi-même. Je méprise ma vie. Qu'importe, après tout. C'est pourquoi, je dis, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si du moins un fléau donné... Me donnait soudain la mort. Mais il se rit de l'épreuve des innocents. La terre est livrée aux mains des méchants. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est donc? Mes jours sont plus rapides qu'un coureur. Ils prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. Ils passent comme les navires des gens, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, je veux oublier ma plainte, laissez ma tristesse reprendre courage. Si je suis effrayé de toutes mes peines, je sais que tu me tiendras pas pour innocent. C'est moi qui serai le coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Si je me levais dans la neige, si je me nettoyais les mains avec du savon, tu me plongerais dans la fosse. Et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Que nous allons ensemble en justice. Il n'est pas entre nous un arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il écarte son bâton de dessus de moi. Que sa terreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis pas moi-même. C'est la réponse que donne Job à Bildad. Donc la réponse de Bildad est une des plus profondes dans ce que nous trouvons dans les Écritures, dans la Bible. Nous découvrons ici la douleur d'un homme qui aime Dieu. Est-ce que vous pensez que Job aime Dieu? Ok, il aime, mais il ne comprend pas. Il se sent comme abandonné sous le poids de l'épreuve, incompris même par son épouse, par ses amis. Mais regardez comment Job commence sa réponse au verset 2. Il pose une question monumentale, une question qui traverse les siècles et qui touche chacun d'entre nous. En vérité, je reconnais qu'il est ainsi, il dit, oui. À la réponse, en répondant à Bildad, il est ainsi, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment l'homme, parce que Bildad disait, Dieu bénit le juste. Oui, mais comment l'homme pourrait bénir? Regardons un peu pour définir qui est juste. Qu'est-ce que ça veut dire être juste? Job ne conteste pas la justice de Dieu. Il dit, oui, je sais que Dieu est saint. Je sais qu'il est le créateur. Job, c'est tout ça, mais il se met d'ailleurs à contempler l'univers. Vous voyez les phrases qu'il utilise, c'est très poétique. Il parle de Dieu qui déplace les montagnes, qui commande le soleil. Et il parle des grandes constellations. Hier, on était au mariage, là, puis on était dans le champ, là, puis on voyait les étoiles, c'était de toute beauté. Mais Job, il sait que Dieu est tout-puissant. Le vrai problème, c'est la fossée immense entre sa misère et la perfection et de Dieu. Il réalise qu'il ne peut rien faire. Comment un simple être de poussière, fait de poussière, pourrait-il se tenir devant un Dieu, le Dieu de l'univers, et être même déclaré juste? Donc, Job utilise alors un langage un peu de tribunal. Il dit, si je voulais faire un procès à Dieu, il dit, dans le verset 3, là, et pour prouver ma bonne foi, comment je veux le faire? S'il me pose 1000 questions, je ne serais pas capable de répondre au moins une. On va le voir à la fin du livre. Donc, c'est une réalité terrible. Job se sent pris au piège. Il s'est dit, la partie est inégale, donc. Est loin d'être égale. Si je ferme ma bouche, je souffre. Et tout le monde me croit coupable. Mais si j'ose ouvrir ma bouche, il dit, pour crier mon innocence, le simple fait de vouloir me justifier devant Dieu, un Dieu si saint, parfait, va donner l'impression que je suis un peu orgueilleux. Oui, je suis juste. Il va me condamner. Il dit ça dans le verset 20. C'est comme si quelqu'un dit, la Bible nous demande d'être humble. On dit oui, enfin je commence à être humble. Là, c'est pas bon. C'est le sentiment d'un homme qui a l'impression que Dieu est devenu un juge lointain, même inaccessible, devant lequel on ne peut rien faire. C'est ce qui le pousse à crier dans ces mots si durs. Dieu se rit de l'épreuve des innocents. Vous voyez le verset 3, 23 est dur. Hein? Dieu se rit de l'épreuve des innocents. On le voit à le contraire dans la parole de Dieu. Hein? Dieu ne se réjouit pas de l'épreuve des innocents. Mais voyez cette phrase-là. Et derrière cette phrase, il y a toute la douleur, la frustration de Job. Il se sent abandonné avec l'impression que Dieu est indifférent. On dirait qu'il dit, on dirait, Seigneur, que tu te moques de moi. Ces mots ne sont pas une attaque directe à Dieu, mais l'expression d'une terrible crise spirituelle même, d'une vision humaine forcément limitée à l'action de Dieu. Il ne connaît pas les choses. C'est au cœur de sa détresse que Job pousse un cri prophétique après. Il dit dans le verset 3, « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous. » Ça m'a fait penser un peu au Seigneur Jésus, ok? Job voyait dans la souffrance, il dit à Dieu, « Mais tu te moques de moi? Est-ce que tu te ris de l'épreuve? » Rappelez-vous, que Jésus, sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu abandonne les justes? Il nous abandonne, si on peut dire. Dans sa grâce, il ne nous abandonne pas. Il permet les souffrances. Et pourtant, Jésus a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus, c'est Dieu lui-même. Autant plus Job, qui a C'est quelqu'un qui connaît, qui vraiment est vraiment pieux devant Dieu, il est droit devant Dieu. Il crie, il dit, est-ce que tu t'es moqué de ma souffrance? Et c'est dans le verset 33 qui dit, il n'y a pas d'entre nous un arbitre qui pose sa main sur nous. Donc Job réalise qu'il y a une fosse immense, comme j'ai mentionné tantôt, entre la sainteté du Créateur et la misère de la créature. Donc il soupire après un arbitre, un médiateur. Quelqu'un qui soit assez grand pour se tenir devant la majesté de Dieu sans être détruit, et assez proche pour descendre dans la détresse de l'homme, lui prendre la main et le réconcilier avec Dieu. Ça prend quelqu'un comme ça. Donc Job crie son besoin d'un défenseur qui lui plaide, qui plaide sa cause. Et c'est précisément ce que le prophète plus tard, Ésaïe, va nous donner un indice. Job ne sait pas encore, mais il le dit, hein, il annonce en quelque sorte. Là, vous êtes en train de dire, oh, médiateur, arbitre, vous êtes en train de penser déjà. Mais Ésaïe, utilise le même mot, arbitre, dans Ésaïe chapitre 2, verset 4, il dit, prophétisant la venue d'un Messie qui sera, le Messie qui sera l'arbitre des nations, il dit. C'est-à-dire le médiateur des nations. En parlant de qui? En parlant de Jésus. Ces médiateurs que Job cherchait désespérément au milieu de l'épreuve, Dieu nous l'a pleinement donné aujourd'hui. Donc la question de Job, comment l'homme serait-il juste devant Dieu, trouve sa réponse absolue, définitive en Jésus et dans sa croix aussi. Les Écritures viennent chasser nos craintes et nous révèlent cette certitude dans 1 Timothée 2:5. Il y en a peut-être qui le connaissent par cœur. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ quoi? Jésus-Christ homme. Jésus est l'arbitre parfait. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2:1. C'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreux 9:15. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Romains 8, 34. Si Job avait su, avait connu ce. Mais pourtant, il a annoncé, dans sa souffrance, il a annoncé la venue de ce médiateur. D'un côté, il est éternellement Dieu, pardon, Jésus. Il partage la sainteté, la puissance et la gloire du Père. Mais de l'autre côté, il s'est fait homme. Il a pris notre chair. Jésus savait qu'est-ce qu'il a faim. Jésus savait qu'est-ce qu'il y a avoir mal. Jésus savait qu'est-ce qui était être incompris, abandonné de ses proches. Il connaissait ça, Jésus, ou non? Oui, on le lit dans le Nouveau Testament. Mieux encore, Jésus sait ce que signifie souffrir de manière la plus injuste que ce soit. Lui, l'innocent parfait, qui a accepté d'être condamné à notre place. Comment devons-nous ou devenons justes devant Dieu? Comment pourrons-nous être déclarés justes? Ce n'est pas en débattant avec Dieu lui-même, comme Job essayait de le faire. Ce n'est pas en essayant d'éprouver nos mérites par nos propres forces non plus. L'apôtre Paul répond directement à cette question. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre médiateur a pris sur lui notre condamnation, il nous a revêtus de sa justice. Donc, c'est-à-dire, il nous a déclarés justes. Donc, devant le tribunal de Dieu, quand vous êtes cachés en Christ, comme dit l'apôtre Paul, le juge ne voit plus votre misère, vos doutes, vos souffrances, le chaos, votre épreuve. Il voit la perfection de son Fils. Qu'est-ce que cela change pour vous aujourd'hui, au milieu de votre souffrance, de votre épreuve? Quand l'épreuve est si violente que vous n'avez même pas la force de formuler une prière cohérente même, quand les questions se bousculent et que vous ne pouvez pas même pleurer, il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, écoute, j'ai tellement pleuré que j'ai plus de larmes. Rappelez-vous, Jésus, votre médiateur, intercède pour vous. Rappelez-vous que lorsque vous pleurez en secret dans votre chambre, comme dit le Seigneur, va dans ta chambre et prie ton Père. Vous n'êtes pas seul. Jésus est votre avocat auprès du Père. Il connaît personnellement votre souffrance. Il la comprend, il se tient devant Dieu pour intercéder. C'est comme s'il disait, Père, regarde cette brebis. Il m'appartient. J'ai déjà porté sa peine et sa condamnation à la croix. Et aujourd'hui, il est parfaitement juste à mes yeux. Donc, écoute-la. Vous vous rappelez la prière de Jésus pour ses disciples aussi? Protège-les du malin. Voilà la certitude que Job n'avait pas encore à ce moment-là, mais que les Écritures nous accordent maintenant, aujourd'hui. Noir sur blanc, la fossée qui nous séparait a été comblée. Dans l'épreuve, donc, nous sommes consolés, protégés, rassurés par notre avocat, Jésus-Christ. Lisons Job 10 maintenant. Fini bientôt. Ça fait partie de la réponse de Job. Mais là, maintenant, doucement, il va diriger ça, comme il le fait d'ailleurs souvent, Job. Il s'en va vers Dieu. Okay? Il répond à son ami, et après, il répond, il parle avec Dieu. Regardez, écoutez les paroles qu'il prononce. « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je laisserai exprimer ma plainte sur mon sort. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. J'ai dit à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien d'exercer l'oppression, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta lumière sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voix un mortel? Tes jours sont comme les jours d'un mortel et tes années comme les jours de l'homme? Pour que tu recherches ma faute, pour que tu t'inquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas condamnable et que nul ne délivre de ta main. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont fait tout entier et tu me détruiras. Souviens-toi que tu m'as fait comme avec de l'argile. Voudrais-tu me faire retourner à la poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as vêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé la vie et la bienveillance. Tes soins m'ont conservé le souffle. Mais voici ce que tu réservais dans ton cœur. Je sais ce qui était dans ta pensée. Si je pêche, tu m'observes. Et tu ne me tiens pas pour innocent de ma faute. Si je suis condamnable, malheur à moi. Si je suis juste, je n'ose lever la tête, rassasi de mépris et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la redresser, tu me pourchasses comme un lion. Tu me frappes encore par des miracles. Tu m'opposes de nouveaux témoins. Ton irritation contre moi augmente. Une armée prend la relève pour m'assaillir. J'aurais exprimé aucun œil m'aurait vu. Je serais comme si je n'avais pas existé. Et j'aurais été porté du ventre de ma mère à la tombe. Mes jours ne sont-ils pas un petit nombre, qu'ils me laissent, qu'ils se retirent de moi et que je reprenne un peu de courage avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres, de l'ombre de la mort, pays des ténèbres profondes comme l'obscurité, l'ombre de la mort où règne le désordre, où la lumière est comme l'obscurité. » C'est des dures paroles. Hein? Voilà comment Bildad a encouragé son ami Job. Voilà les paroles qui sortent de sa bouche. Au lieu de le soutenir, il le juge. Job donc cesse de parler à ses amis et se tourne directement vers Dieu. Mais son cœur est rempli malheureusement d'amertume. Il dit, « Mon âme est dégoûtée de la vie », il dit, le verset 1. Et là, Job va s'attaquer aux motivations profondes même de Dieu. Il exprime une plainte terrible. Il dit, « Seigneur, on dirait que tu as du plaisir à m'opprimer. On dirait que tu cherches le moindre défaut pour me condamner. » Dans les versets 3 à 6, puis Job utilise l'image magnifique de la poterie. Au verset 8, « Tes mains m'ont façonné, elles m'ont fait tout entier, tu me détruiras. Job rappelle à Dieu avec quelle tendresse il a tissé des os, des nerfs dans le sein de sa mère. Mais l'incompréhension de Job est totale. Il dit, pourquoi m'avoir créé avec tant d'amour, si c'était pour me persécuter, comme un lion, il dit, et pour me détruire aujourd'hui, verset 16, il croit même que Dieu a des mauvaises intentions à son égard, et qu'il n'a aucune perspective, comme nous l'avons maintenant après la mort, il voit son avenir d'une manière très sombre, surtout dans ces versets. Puis, pour lui, tout s'arrête dans le séjour des morts, le Sheol qu'on appelle. Il l'a mentionné déjà dans le chapitre 7. Tout s'arrête dans le séjour des morts, qu'il décrit comme un pays des ténèbres, du chaos, du désordre. Donc, dans sa détresse, Job est perdu. L'assurance, il n'y a plus d'assurance dans les bonnes intentions de Dieu. Verset 4, il pose cette question à Dieu. As-tu des yeux des chairs? Vois-tu comme un voit un mortel? Il demande ça à Dieu. Il ose poser cette question à Dieu. Est-ce que tu vois comme les hommes? Est-ce que tu es un homme pour sentir ce que je sens? Avez-vous osé de poser ces questions à Dieu, des fois? Je crois que oui, hein? Quand on souffre intensément, des fois, on peut arriver même à mentionner ces mots-là. Donc, Job dit cela pour dénoncer ce qu'il croit être un acharnement injuste de la part de Dieu. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que des siècles plus tard, Dieu va répondre à cette question. En Jésus, vraiment Dieu a pris des yeux des hommes, une chair comme l'homme. Il est devenu homme comme nous. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est Jean 1, 14, mais le 1, qu'est-ce qu'il dit au début? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, c'est-à-dire Dieu, s'est fait chair. Et qu'est-ce qui a fait Dieu? Qu'est-ce qui a fait Dieu devenu chair? Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, à la croix, Jésus, l'innocent, parfait, a accepté d'être brisé, humilié, injustement pour prendre nos fautes et pour porter nos douleurs. C'est pourquoi Dieu nous rassure par notre espérance. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5. Donc, face au malheur que nous ne comprenons pas, nous avons la preuve historique même et absolue que Dieu a des bonnes intentions pour nous. Cette preuve, c'est la croix. Comme il est écrit par Paul, mais en ceci, Dieu prouve son amour, vous le connaissez des fois par cœur, envers nous, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, contrairement à Job, qui croyait que tout s'arrêtait à la tombe, la parole de Dieu nous donne l'assurance de la vie éternelle. Nous avons plus à vivre dans la peur, nous n'avons plus à vivre dans la peur et dans le désespoir. Par l'esprit d'adoption, on peut crier quoi? Abba, Père. Donc, l'apôtre Paul mentionne ici dans Romains 8, 18, j'estime les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire, on l'a chanté, à venir qui sera manifestée pour nous. Donc, notre espérance est ancrée dans l'éternité où il essuiera toute larme. J'aime ce verset, le dernier livre de la Bible, Apocalypse 21, 4, il dit, il essuiera toute larme et leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni souffrance. Dans le cas de Job, ni ver, ni rien. Ni des plaies, ni tristesse. Car les premières choses ont disparu, dit Apocalypse. Donc, mes frères et sœurs, la question de Job est aussi la nôtre. Comment être consolé, rassuré quand on ne comprend pas ce que Dieu fait dans nos vies? Comment l'être? La réponse est dans ces trois chapitres, est claire. Notre propre sagesse ne suffit pas. Il nous faut la révélation de Dieu. Il faut que Dieu nous parle quand on est au milieu de la souffrance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a fait cette grâce. Il s'est révélé à nous. Après avoir autrefois, ou plusieurs reprises, par de plusieurs manières, il nous a parlé par Job aussi. Parlé à nos pères, par les prophètes. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours. Ils sont les derniers. Donc si vous traversez la tempête aujourd'hui, il n'y a pas de tempête aujourd'hui, mais la tempête, la souffrance, rappelez-vous que Dieu peut seul, lui seul peut apaiser votre cœur. Ne vous fiez pas au raisonnement humain ou aux leçons morales de ce monde. Attachez-vous fermement à quoi? À sa parole. Je ne dis pas que les anciens, là, je parle pas des anciens des Rosemont, là, je parle des anciens chrétiens qui ont vécu, leur conseil, c'est pas bon. Je ne suis pas en train de dire ça, là. C'est que les vraies réponses, on peut se tromper nous-mêmes, OK? Et Bildad parle plutôt des expériences, des traditions humaines, des conseils humains. Ne restez pas seul à porter le poids de vos souffrances, frères et sœurs. Il faut se réfugier en Jésus, notre médiateur. Il est la révélation parfaite de l'amour de Dieu qui intercède pour vous et pour nous. Pour moi, pardon. Il nous comprend. Ne doutez jamais de la bonté du Père, de Dieu. Regardez à la croix et reprenez courage, car il nous a révélé que notre avenir est en sécurité dans la vie éternelle. Trois choses à nous rappeler. La parole de Dieu, Jésus est notre médiateur, et nous avons cette espérance que nous allons un jour être dans sa présence, et tout va finir. Plus de pleurs, plus de souffrances. Hein? Dieu a permis à Job de vivre jusqu'à 140 ans, là. Donc, écoutez, là, moi j'ai 57 ans, je suis très jeune, donc, par rapport à Job. Non, mais il ne s'agit pas de vivre vieux. Il s'agit de vivre selon l'espérance de notre Dieu nous a. Nous allons le voir de l'autre côté. Et soyez rassurés. Dans les temps difficiles, Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Dieu, Jésus, par son esprit, il habite en nous. Je finis par ce court verset des 2 Thessaloniciens. Donc que le Seigneur fortifie nos cœurs dans cette assurance. Que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, est Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Amen.